pour nos voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quelle vie pour les cadres, toujours entre deux avions. Depuis l'arrivée du virus mondial Covid-19, certes, le rythme s'est ralenti, mais pas partout. En gros, ils ont toujours une valise prête. Les salons d'aéroport sont leurs bureaux, d'Abidjan à New York, de Nairobi à Londres. Ils sont cadres, chefs d'entreprise, consultants et toujours en déplacement. Et parmi eux, de plus en plus de femmes. Alors, quel impact ce mode de vie a-t-il sur la vie sociale et familiale? Comment trouver un équilibre quand on n'est jamais chez soi? Dans ce théâtre de l'élite mondialisée, à l'aise partout, avec tout le monde, le voyage d'affaires va-t-il être durablement touché par le coronavirus? Et par ailleurs, pourra-t-il résister aux émissions de CO2, bilan carbone très mauvais des avions? Les voisins, si vous êtes tout le temps dans l'avion et à l'hôtel, appelez-nous pour nous parler de cette vie en perpétuel mouvement. Dans le train aussi, si c'est votre cas, d'une gare à l'autre, vous êtes aussi concerné, bien sûr. Liberté, réussite professionnelle ou tout simplement fatigue, c'est à vous de nous raconter votre vie en toute simplicité au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp gratuit pour nous appeler ou nous poster des messages. Je vous présente nos invités, des chercheurs qui étudient à la loupe ce mode de vie un peu particulier quand même, et une psychologue du travail, Nathalie Prussia-Collin. Bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel.
Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Bonjour Vincent Kaufmann.
Bonjour.
Et vous n'avez pas pris le train ou l'avion pour nous rejoindre. Vous êtes en liaison technique grâce aux moyens de la radio-télévision suisse que nous remercions. Merci d'être avec nous. Dans le studio à Paris, Christophe Gay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directeur de l'Institut de recherche Forum Vie Mobile, qui est un think tank qui réfléchit à ces questions de mobilité. Et nous sommes en ligne avec celui qui vit dans les avions. Bonjour Didier Acouetté.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Directeur général du cabinet de conseil Afrique Search. Où êtes-vous aujourd'hui, Didier?
Je suis à Abidjan, Emmanuel.
D'accord, c'est-à-dire pratiquement à votre domicile finalement.
Pratiquement, oui, pas très loin.
Vous allez bien sûr nous raconter les coulisses de cette vie en mouvement. Et bien évidemment, les voisins et les voisines, vous nous appelez 33 1 84 22 71 71.
Ladies and gentlemen, please take your seats as we are about to close the door for departure. 7 milliards de voisins. Grazie per l'attesa. Il vostro volo d'ustanza starà la destra 33 a destinazione Francoforte.
Des voisins, c'est maintenant.
Vos messages sur les réseaux sociaux. Gilbert est à Bafoussam au Cameroun. Il nous dit « Moi, j'ai vécu avec un oncle qui voyageait tout le temps, un absentéiste à la maison. Ses enfants et sa femme le voyaient 2 à 3 jours par mois. » Drissa Danané en Côte d'Ivoire. « Ceux qui vivent entre deux avions sont des bâtisseurs du monde. C'est luxueux, les hublots. Seulement, les familles de ces internationaux restent un petit peu écartées de leurs membres. Mais ne dit-on pas que le travail est une corvée qui se récompense bien, sous-entendu évidemment, en monnaie sonnante. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On a envie quand même de pousser un peu plus loin la discussion. Et vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. On accueille une auditrice qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Annick est en ligne avec nous de Séoul. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Annick, vous nous avez contacté via WhatsApp. Vous êtes d'origine burundaise. Vous êtes installée à Séoul depuis 2 ans et vous êtes cadre dans la finance et tout le temps en voyage.
Oui, c'est ça. C'est ça.
C'est-à-dire à quelle fréquence, où est-ce que vous vous déplacez? C'est quoi une semaine normale pour vous, Annick?
Je travaille beaucoup sur l'Asie et sur l'Afrique. Donc une semaine normale, c'est un petit peu sur Séoul, sur l'Indonésie, Philippines. Et puis aussi, je passe souvent sur Addis.
Addis Abeba, en Éthiopie, c'est pas la porte à côté.
Addis Abeba, oui, c'est pas la porte à côté. Puis je suis, je fais aussi les États-Unis et un petit peu l'Europe sur Paris-Bruxelles. Mm-hmm. C'est un petit peu la semaine, la semaine typique. C'est vrai que c'est, oui.
C'est-à-dire toutes ces destinations-là dans une semaine?
Non, d'habitude, une semaine, je peux faire l'Afrique, l'Asie et l'Europe.
Ah oui.
Et ça dépend d'autres semaines. Je suis obligée de... Ça, c'est dans le cadre de mon travail. Je peux faire l'Amérique du Nord et puis l'Europe.
Oui.
Et retour sur l'Asie.
Uh-huh. Et vous, Didier Akwété, alors, puisque vous êtes aussi en ligne avec nous, grand voyageur, grand travailleur mobile, hein, vous savez combien de jours par an vous êtes hors de votre domicile?
Alors, ce n'est pas très brillant, Emmanuel, et effectivement, je dois être à l'extérieur 300 jours dans l'année. Avec
300 jours par an, donc il reste 65 jours à votre domicile. Hein.
Qu'il faut bien organiser, effectivement. Donc, ce n'est pas très brillant, comme je le dis. C'est beaucoup de voyages en Afrique, bien sûr, un peu l'Asie, un peu les États-Unis, mais beaucoup l'Afrique. Et ce qui est épuisant, c'est vraiment les correspondances et les avions entre certains pays en Afrique. Et ça, c'est pas toujours pratique. Autant sur les grandes destinations, c'est-à-dire quand on fait par Paris, Johannesburg ou Paris, Singapour, vous avez 12 heures devant vous. Et là, vous avez vraiment un temps de voiture, de repos, de lecture. Autant sur des destinations où c'est 2-3 heures de vol, C'est beaucoup plus fatigant et beaucoup plus contraignant.
Annick, quels effets ont le coronavirus là, sur vos déplacements ultra fréquents, vous qui êtes installée à Séoul?
C'est vrai que depuis 2 semaines, tout est arrêté, assez brusquement, parce qu'on n'a plus le droit vraiment de... Il y a beaucoup de pays qui ont fermé les portes, donc on est mis en quarantaine. Donc du coup, c'est vrai qu'on est... Il y a moins de déplacements. Depuis 2 semaines, c'est vraiment Séoul, c'est travail à partir du bureau de Séoul.
Ça veut dire que finalement, pour la première fois, vous vivez une vie anormale pour vous, sans bouger?
Ouais, c'est un peu anormal, mais c'est vrai que j'y trouve mon compte un petit peu. Je peux passer beaucoup plus de temps avec les enfants et je prends beaucoup plus de temps de voir Séoul aussi. Il y a plein de coins que je ne connaissais pas. C'est vrai, ça ralentit, mais... Ça a des avantages.
Vous ne connaissez pas la ville où vous habitez, forcément. deux mots, quelle est votre situation familiale, Annick, sans être trop indiscrète?
Je suis maman solo avec deux adolescents, 15 ans, 13 ans, qui sont ici avec moi, qui sont scolarisés au lycée français.
Et le papa, alors, il est où?
Le papa, il est basé sur l'Afrique, le Soudan. Et il les voit régulièrement.
D'accord. Il est néerlandais, hein, je crois, le papa.
Oui, c'est ça.
C'est ça, oui. Donc, vos enfants, ils sont baignés dans cette grande mobilité?
Oui, depuis qu'ils sont tout petits. Depuis, en fait, ils sont nés dedans et j'espère qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Pour le moment, ça va.
Comment ça se passe pour les devoirs, par exemple, hein, une question triviale? Peut-être que je devrais aussi poser la question au papa, d'ailleurs. Hein, pourquoi la poser toujours aux mamans? Je ne sais pas.
C'est vrai que oui, c'est vrai qu'on a on essaie de faire, si je suis en voyage, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses sur Skype et j'essaie de suivre, mais c'est vrai que j'essaie
donc
aussi de réduire...
Vous faites les devoirs scolaires, vous regardez les devoirs, etc. via Skype,
oui.
C'est ça, hein?
Oui, c'est vrai que les écoles maintenant, les écoles françaises ont un système Pronote où on arrive à suivre les parents même en étant pas ici. Donc, on arrive à suivre les devoirs, parler aux professeurs. Mais il est vrai que pendant les périodes d'examen, je réduis beaucoup les voyages. Je réduis.
Comment vous trouvez votre équilibre, Annick, en faisant parfois 3 continents en une semaine?
C'est vrai que c'est un travail que j'aime beaucoup. Donc, ça me permet de m'épanouir professionnellement. Puis j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup voyager, découvrir les autres pays.
Ou les hôtels tout simplement et les salles de réunion?
Ah non, c'est vrai que je profite de chaque occasion pour sortir et découvrir un peu plus la ville. C'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps dans les réunions, mais je rate pas l'occasion de sortir. Et si j'ai l'occasion aussi de voyager avec les enfants, je les amène avec moi. Mais c'est vrai que le côté négatif, c'est beaucoup plus de ne pas être près de la famille et la famille proche.
Mais finalement, il y a toujours, c'est ce qui vous permet de tenir cette petite étincelle de curiosité, d'enthousiasme, un peu de découverte finalement en vous.
Oui, c'est ça. J'aime beaucoup connaître les autres cultures, surtout la cuisine d'ailleurs, les langues d'ailleurs. Oui.
Merci Annick. En tout cas, vous brossez quand même un tableau finalement assez positif. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a retrouvé Didier Akwété ? Oui, vous êtes bien en ligne avec nous. D'Abidjan, une fois n'est pas coutume, vous êtes dans le pays où vous êtes basé. Vous êtes chef d'entreprise, Didier Akwété, de cette entreprise de conseil Afrique Search. Vous nous le disiez avant qu'on ait des problèmes de ligne téléphonique. Vous avez quand même assez vite annoncé la couleur, c'est-à-dire les transferts, la vie dans les aéroports. Les connexions sont devenues un peu votre obsession, Didier Akwété.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est le côté un peu contraignant de toute l'affaire. Et parfois, on passe plus de temps dans les aéroports que dans les avions. Et ce côté contraignant pollue un petit peu, finalement, les voyages que vous faites. Mais heureusement, à l'arrivée, ce qui est aussi quand même, je pense, ce qui vous donne un peu cette motivation, c'est que vous avez le sentiment de contribuer à un agenda global. Et pour voir, vous le savez, c'est la transformation de l'Afrique. Donc à chaque fois que je voyage, c'est généralement pour rencontrer des gens qui, généralement de cet agenda, donc des rencontres humaines, des projets, faire des recrutements, faire du conseil, rencontrer des jeunes, soutenir des entrepreneurs. Donc disons que ça prend le dessus par rapport aux contraintes qu'on peut vivre au quotidien dans ces voyages. Et aussi, comme disait Annick depuis Séoul, un peu la famille, qu'on a un peu tendance à abandonner périodiquement.
Participer à un agenda global, cette formule est intéressante. Vincent Kaufmann, Christophe Gay, c'est cette satisfaction professionnelle que vous retrouvez vous aussi dans les études, dans les témoignages que vous recueillez entre chercheurs, spécialistes de la mobilité. Vincent Kaufmann ?
Oui, alors moi j'ai écouté ces témoignages avec beaucoup d'intérêt. Ça correspond à un certain nombre de résultats qu'on a pu obtenir dans des travaux de recherche récents. D'ailleurs, qu'on a mené dans le cadre du forum Vie Mobile avec Christophe Gay qui est sur votre qui est sur votre plateau. On est vraiment maintenant, je crois, face à un phénomène qui n'est plus une anecdote. En fait, d'après les enquêtes qu'on a pu réaliser, un actif sur deux est confronté à un moment ou à un autre de sa vie professionnelle à une situation de grande mobilité. Donc on n'est pas dans l'épaisseur du trait, les 2% de la population et autres.
Attendez, un actif sur deux et lui-même...
À un moment ou à un autre de sa carrière professionnelle. Donc pas au temps T, pas en 2020, évidemment. Mais...
Alors essentiellement des professions cadres supérieurs.
Alors non, ça c'est peut-être une chose, et Christophe Gay pourra compléter, mais ce qu'on a pu observer, c'est que bien sûr, il y a des cadres supérieurs, il y a cet associé, et c'est quelque chose qui peut être bien vécu, qui est associé à une certaine image du cadre qui travaille au niveau international, souvent dans des grandes entreprises multinationales privées. Mais on voit aussi des formes de grande mobilité à l'autre bout de l'échelle socio-professionnelle, dans des professions peu qualifiées et qui sont en fait le résultat de la précarité de l'emploi. C'est-à-dire que quand vous trouvez de l'emploi loin de chez vous, et que vous avez subi une période de chômage, par exemple,
à qui ? À quel type de personnes ?
À des travaux d'ouvriers ou de... faire une heure et demie, 2 heures de voiture pour prendre cet emploi parce qu'on est en fin de droit et qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. C'est des choses qu'on rencontre de plus en plus fréquemment. Et donc c'est un phénomène qui est vraiment... ambivalent, cette grande mobilité. C'est pas... On a un peu l'image du cadre dynamique qui parcourt le monde en avion, en TGV ou en voiture sur autoroute.
Et qui
a un travail génial, etc.
Comme, beaucoup le disent
comme
quand
vos
même.
Intervenants. Ouais. Mais il n'y a pas que ça.
La grande mobilité, c'est donc devenu un mode de vie à part entière, Christophe Gay.
Oui, alors je voudrais revenir sur la question que vous posiez, là, sur la question du positionnement social des gens qui pratiquent ces modes de vie. Nous, on vient de mener une enquête qui porte sur la France exclusivement, mais qui montre qu'il y a aujourd'hui 40% des gens qui ont une grande mobilité dans le cadre de leur travail. Et ce qu'on constate, c'est que si ceux qui sont les plus aisés et les plus diplômés se déplacent plus vite et plus loin, les plus modestes, eux, peuvent être amenés à se déplacer aussi énormément en temps passé. Et on voit que c'est à la fois des gens qui ont des métiers mobiles, donc des conducteurs, par exemple, de train ou d'avion, des gens qui vont être livreurs ou chauffeurs de taxi, mais qui a aussi tout un ensemble de professions comme des infirmières qui se déplacent au domicile des gens, des ouvriers qui se déplacent sur des chantiers pour les accompagner, pour ne citer que ces exemples, qui ont des modes de vie très mobiles. Et donc là, il faut vraiment avoir en tête que finalement, l'image qui émerge des témoignages de vos auditeurs, c'est une petite partie de la réalité et qu'il y a une partie de la réalité qui est trop souvent ignorée, qui est celle des professions les plus modestes, qui peut être aussi amenée à passer un temps considérable à se déplacer.
Didier, à côté, vous qui êtes chasseur de tête, hein, aussi pour une partie de vos activités professionnelles. Un cadre flexible, un cadre mobile, c'est d'abord une personne compétente, valable pour l'entreprise. C'est devenu un critère central ou pas pour vous ?
Alors effectivement, dans la plupart des recrutements que nous faisons pour les cadres dirigeants, il y a nécessairement l'exigence de la mobilité. Faut savoir déjà qu'aujourd'hui, pour faire carrière dans les groupes, vous êtes amené à par exemple changer de pays pour prendre un nouveau poste, vous installer pendant quelques mois pour contribuer au développement d'une filiale ou prendre la direction d'entité. Donc il y a cette exigence de mobilité qu'on retrouve généralement dans la plupart des descriptions que les entreprises nous font lorsque nous recherchons des candidats.
Mais c'est vécu par les candidats et par ceux qui prennent les jobs comme une chance, comme une récompense professionnelle aussi, parce que ça s'accompagne de bonus et de salaires attractifs, ou ça commence à devenir un truc sur lequel on s'interroge pour les gens que vous recrutez.
C'est lié aux tranches d'âge. Quand on recrute par exemple des juniors, des jeunes diplômés, ils sont super excités par les déplacements, ils adorent. Lorsqu'on a 35, 45, jusqu'à 50, c'est vrai, on est vraiment dans de sa carrière, et là, ça fait partie du jeu. Il faut aller diriger des filiales, aller apporter une expertise dans un bureau. Donc, la mobilité, c'est important pour développer sa carrière. Et au-delà de 50, 55 ans, ils aspirent à plus de stabilité. Ils veulent moins bouger. Bon, peut-être pour des raisons familiales aussi, etc. Mais on voit qu'il y a trois niveaux il y a trois segments de vie avec des niveaux d'exigence différentes en matière de mobilité. Mais l'entreprise, elle, vous demande à tout moment de pouvoir être mobile. Et c'est vrai, ça fait partie de la carrière dans des entreprises qui ont une dimension globale et qui ont des représentants de partout. Mais c'est pas si nouveau que ça, parce que moi je me souviens, lorsque nous étions en école de commerce dans les années 80, on parlait déjà du nomadisme des cadres. Et ce qui paraissait, ou ce qui apparaissait comme quelque chose d'inattendu est devenu la norme.
Il y a quand même eu une incroyable accélération des rythmes où aujourd'hui, les connexions aériennes font qu'effectivement, vous-même, vous pouvez parcourir trois continents en une semaine et être 300 jours hors de votre base et de votre domicile. Ça, vous l'avez senti au cours des 25 années de carrière? Vous avez senti cette accélération des rythmes dans la mobilité ou pas, Didier, à côté?
Ah, clairement. Moi, il m'arrive de faire en trois jours trois continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. C'est-à-dire, j'arrive, je fais ma réunion. Bon, c'est pas non plus, c'est pas conseillé, mais parce que c'est, malheureusement, c'est la contrainte qui l'impose. Vous arrivez, vous faites vos réunions, vous reprenez l'avion le soir ou le lendemain, vous arrivez sur le continent, au cas du décalage, vous faites la réunion, vous reprenez l'avion. Et donc, en deux, trois jours, je fais le tour du monde. Ce qui était un peu difficile à faire avant, ce n'était pas recommandé.
Au réveil, ça vous arrive de ne pas savoir dans quelle ville vous êtes quand vous vous réveillez, le réveil sonne?
Ah, clairement, ça m'est encore arrivé la semaine dernière. On se réveille en pleine nuit et on se demande où on se trouve, dans quel pays, dans quel... Enfin, où
et, et si vous allumez la lumière, vous n'êtes pas plus renseigné parce que vous êtes dans des chaînes d'hôtels où toutes les chambres se ressemblent?
Alors disons que le cerveau s'éveille lorsqu'on allume, parce que le cerveau se retrouve la réalité et on se dit « Ah, je suis dans tel pays, dans telle ville, mais il y a un moment où, où on est un peu perdu, et ça arrive périodiquement de se demander où, où on se trouve, et c'est là où je dis, bon, allez, il faut ralentir une semaine, peut-être pas faire trop de voyages, parce que le syndrome de l'homme perdu dans l'espace commence à se produire, et il faut ralentir. Mais clairement, hein, avec, avec le nombre d'avions, enfin, le, la, la mobilité devient tellement facile que sauter d'un avion à l'autre devient comme prendre un bus ou une voiture, genre une voiture, quoi. C'est assez impressionnant. Et en fait, on retrouve généralement dans les aéroports, en fait, tous ces cadres-là. On se retrouve plus souvent dans les aéroports que dans les pays. Donc on se rend compte qu'effectivement, ce que vous disiez, la mobilité est devenue une norme et la facilité à voyager est devenue clairement une deuxième norme dans la façon de...
Et des rencontres dans les salons d'aéroports avec des gens qui se retrouvent régulièrement sur des trajets. Est-ce que vous constatez ça aussi, Vincent Kaufmann ?
Ah oui, il y a une chose, il y a une des auditrices tout à l'heure qui a parlé tout à l'heure d'effets secondaires concernant ses enfants et la grande mobilité des parents. En fait, je pense qu'il y a des... On se socialise à la grande mobilité au sens où voilà, ça devient progressivement un mode de vie. Donc on rencontre des gens qui ont le même type de mode de vie. C'est quelque chose qu'on apprécie. On se construit un peu comme personne aussi autour de ces, ces déplacements fréquents.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les travaux de recherche. Est-ce que ces cadres, néanmoins, ont besoin à un moment donné d'installer, puisque on n'est jamais dans un univers familier, d'installer une routine dans cette vie où il n'y a pas d'univers familier ?
Oui, alors ça, on a eu l'occasion de travailler sur ces questions. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé, d'ailleurs, on peut peut-être en discuter avec les autres intervenants. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui, quand ils voyagent beaucoup, cherchent à se reconfigurer un espace familier en allant, par exemple, toujours dans la même chambre, la même chaîne d'hôtel, où on sait à peu près quel type de service on aura, quelle carte on aura
le soir. De ces chaînes d'hôtels, d'ailleurs, cette standardisation, elle a aussi été créée pour rassurer, en quelque sorte, la grande mobilité des travailleurs.
Oui, alors je pense que c'est certainement un argument, c'est-à-dire que voilà, ces grandes chaînes proposent justement des services qui sont identiques à travers le monde. Donc on peut s'imaginer à l'avance comment ce sera, et donc ça a un côté rassurant, sachant que voilà, on est tout le temps quand on se déplace énormément dans des espaces inconnus, donc il y a un rapport à l'altérité, à l'inconnu qui est très fort, et donc il y a un besoin de se retrouver à un certain moment.
Ou alors, en tout cas, il faut aimer en particulier cette relation à l'inconnu et à l'altérité, d'y à côté. Est-ce que vous êtes toujours dans cette découverte dont parlait cette auditrice tout à l'heure, Annick, ou bien vous cherchez maintenant à créer cette sorte de routine dans cette vie où vous n'avez pas d'univers familier ?
Alors, moi, en fait, j'évite plutôt la routine. Ce qu'on recherche, bien sûr, c'est un minimum de confort pour récupérer, travailler, et puis un côté pratique. C'est-à-dire, l'hôtel que vous choisissez, est-ce qu'il n'est pas trop loin de vos lieux de rendez-vous ? Est-ce que vous pouvez, entre deux rendez-vous, revenir travailler et repartir en réunion ? Est-ce qu'il y a le minimum de confort pour travailler ? Est-ce qu'il y a un terme ? C'est d'abord ça mes critères, plutôt que la routine de l'habitude des espaces où je me sens familier. Donc je suis moins dans ce processus. En revanche, ce que je voulais peut-être ajouter, Emmanuel, c'est la mauvaise habitude du voyageur. C'est-à-dire, plus vous voyagez, moins vous êtes confortable quand vous ne voyagez pas. Et donc, à un moment donné, vous faites des voyages pour garder un rythme de vie et donc une habitude que vous avez prise.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est votre dope un peu, le voyage.
En fait, c'est ça. C'est un vrai danger pour certains. Et moi, je me rends compte de temps, je dis non. Ce voyage est inutile, je l'enlève, je ne le fais pas. Et donc, quand votre agenda se trouve curieusement vide, vous êtes étonné parce que votre mode de vie et votre façon de travailler est aussi lié à ces voyages.
Est-ce que c'est le cas en ce moment avec le coronavirus ? Vous voyagez moins ou pas, d'ailleurs, Didier, à côté ?
Parce que certains événements ont été annulés. Oui, vous voyez, là où je vous parle, je vais être à Nairobi. mais ça a été annulé. J'avais des réunions, du coup, que j'ai annulées aussi parce que l'événement a été annulé. Après Nairobi, je vais aller à Addis Abeba, qui a été annulé aussi. Donc, du coup, bah, je suis à Abidjan pendant 48 heures avant le prochain voyage. Sinon, je n'aurais pas eu ce temps de pause s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Mmh. Donc, du coup, ça vous permet aussi de retrouver un peu l'espace familial, de retrouver une routine sociale avant de reprendre la route.
Didier Acoté, restez en ligne avec nous. Vous pouvez rester encore un peu ou je sais qu'il y a une réunion qui vous attend, mais peut-être un avion, je ne sais pas.
Je peux rester encore
parce
un petit peu.
J'aimerais bien, j'aimerais bien avoir vos réactions sur d'autres questions qu'on va partager avec nos invités. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71. On donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Phnom Penh. C'est bien ça, Nataroun ?
Oui, tout à fait.
Bonjour, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonjour Emmanuel. Merci. Alors, j'écoutais avec attention ce que la personne avant moi partageait. Alors, je suis un peu dans une position différente en ce qui me concerne. Donc, au tout début de ma carrière, donc là j'ai à peu près 45 ans, mais sur les 25 ans, les voyages étaient en effet quelque chose de... Oui, on peut dire ça, une sorte de drogue, mais une drogue pas vraiment personnelle, c'est peut-être plus une drogue sociale dans le sens où il y a toujours la perception des autres qui regardent le voyage.
Le prestige, voilà. Finalement, associé à vos missions.
Tout à fait.
Vous avez été cadre aux Nations Unies, hein, je crois, donc vous êtes franco-gambodgien.
Alors, oui, tout à fait. Alors j'ai commencé en fait à travailler dans un grand cabinet de conseil sur la défense et donc... On était amené à voyager beaucoup en Europe et un peu aux États-Unis et aussi en France. Et ensuite, oui, j'ai fait une transition professionnelle vers les Nations Unies, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Et donc les voyages étaient, d'abord c'était du plaisir parce que quand on est jeune, on n'a pas d'argent, donc on n'a pas forcément la capacité de beaucoup voyager. Et surtout à mon époque, Internet n'était pas commencé déjà. Mais
Et aujourd'hui, vous avez pris du recul, Nataroun, ou pas?
Oui, à 45 ans, j'ai une famille, je suis marié, j'ai deux enfants, donc forcément le rapport au déplacement change. Et ma priorité aujourd'hui, c'est quand même d'arriver à équilibrer les demandes professionnelles, donc qui s'accompagnent de déplacements forcément, mais aussi le temps que je passe à la maison avec ma famille. Pour moi, c'est très clair, l'équilibre, il n'est pas dehors, il est avec les gens que j'aime. Et donc, à 45 ans, j'ai déjà constitué donc cet univers. Et donc, je me sens bien chez moi. Cela dit, c'est bien sûr, ça fait du bien. Et c'est à la fois un mélange de plaisir, parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon travail. Et donc, aller dans des nouveaux environnements, aller rencontrer les gens en dehors du contexte là où on se trouve, c'est toujours... Il y a toujours de l'excitation, il y a toujours des attentes, mais il y a la fatigue.
Oh, c'est ça, on sent bien dans votre témoignage un point de vue assez partagé. Vous continuez de nous appeler, nous parlons de ces cadres entre deux avions avec nos invités chercheurs, également la psychologue du travail Nathalie Prussia-Collin. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nathalie Prussia-Collin, vous allez nous dire dans quelques instants ce que vous racontent les cadres hyper mobiles dans l'intimité de votre cabinet.
Yeah.
l'air de danser comme ça dans les avions avec Speak Matambo. On est chez 7 milliards de voisins en direct sur RFI. Et on regarde à la loupe la vie, ce mode de vie tout de même bien singulier de ces cadres, et pas que des cadres d'ailleurs, qui vivent entre deux avions ou parfois aussi entre deux trains dans cette hyper mobilité avec parfois un logement qui ne sert que de pied à terre. On en discute avec vous, Didier à côté, vous êtes en ligne avec nous, directeur d'Afrique Search. Et merci à nos auditeurs qui nous ont contactés de Phnom Penh, de Séoul, des auditeurs qui d'habitude, c'est vrai, se font plutôt discrets pour partager avec nous ce mode de vie, finalement des témoignages relativement, on va dire, contrastés. Hein. Nathalie Prussia-Collin, vous qui êtes psychologue du travail, que vous racontent ces travailleurs de cette vie entre deux avions?
Alors, les avis sont très variés et tout dépend de la situation. Parce que dans cette hypermobilité, il y a la mobilité nationale à l'intérieur qui fait que les personnes rentrent le soir ou tous les deux soirs chez elles et c'est totalement différent. En organisation familiale pour les personnes qui sont en famille. Et puis, il y a bien évidemment les couples ou les personnes célibataires. Donc, si vous voulez, on a des particularités différentes. Et quand on est sur l'hypermobilité à l'international, si on part d'une famille, tout dépend qui part. Si c'est la femme qui part, on a une réelle culpabilité, même si il y a une organisation aujourd'hui avec le télétravail où le conjoint peut tout à fait rester à la maison, s'occuper des enfants très bien. Le retour est très compliqué, très souvent. J'ai le cas d'une personne qui subit les reproches de ses enfants qui sont parfaits avec leur père toute la semaine, écoutent parfaitement. Et quand elle rentre, c'est très compliqué. Ils ne l'écoutent pas, ils lui font quelque part payer, ils la mettent en dette de son départ. Donc c'est toujours la même chose. Chaque année, elle veut se renouveler dans une situation en disant oui, mais je vais peut-être arrêter, changer de travail. Mais elle aime son travail. Et puis, c'est quelque chose qui la constitue.
Donc il y a un conflit intérieur.
Il y a un conflit intérieur, un conflit de loyauté certain. Le conflit de loyauté entre la vie avec sa famille et malgré le fait qu'elle est l'aval de son conjoint. Son conjoint est parfaitement ravi, il n'y a aucun problème. C'est les enfants où c'est plus compliqué. Et bien évidemment, son travail, sa promotion et tout ça. Ensuite, on a bien évidemment d'autres personnes qui sont célibataires, elles, et pour lesquelles il n'y a aucun souci, si ce n'est ce côté impersonnel et qui vont louer un appartement ou avoir acheté un appartement dans lequel ils ne seront ou elles ne seront jamais. Parce que, eh bien, toujours entre deux avions, très loin, et en fait, l'habitude de ne même pas personnaliser ou rentrer dans quelque chose qui va leur ressembler, en fait, très souvent.
Vous me disiez hors micro tout à l'heure que vous aviez dans votre cabinet hier une personne qui ne bouge plus depuis deux semaines à cause du coronavirus et qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive.
Alors, il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive parce qu'il a l'habitude de bouger. Il est en couple. La séance hier a été autour de ça. On a essayé de trouver des solutions pour qu'il puisse effectivement comprendre que, au bout de plusieurs années de vie de couple et de plusieurs années d'extrême mobilité, il est en train de découvrir une conjointe avec des habitudes sans lui, en fait. Et lui, il me dit, voilà, elle allume la machine à laver à 22h. Mais c'est n'importe quoi. Et il a raison, quelque part. Mais
En fait, sa conjointe est célibataire.
Elle est célibataire. Elle a ses habitudes de toute la semaine. Lui, il part trois semaines dans le mois. Il rentre pendant une semaine. Et tout ça, c'est à redéfinir. Et il est en train de me dire, je me rends compte, hier soir, c'était, je me rends compte qu'en fait, il ne parlait pas de lui. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas dans ses habitudes. En fait, ils se connaissent le week-end et encore le week-end avec ce que ça comporte de temps assez rapide quand ils rentrent.
Depuis des années.
Alors, ce couple est ensemble depuis plusieurs années, depuis quasiment 8 ou 9 ans, et son hypermobilité date de 4-5 ans. Et oui.
Nous appelez bien sûr les voisins et les voisines si vous vous reconnaissez dans ces questionnements sur cette hypermobilité au 33 1 84 22 71 71 si vous habitez partout et nulle part, toujours en déplacement professionnel. Avec nous les chercheurs Vincent Kaufmann à Lausanne et Christophe Gay avec nous dans le studio à Paris. Christophe Gay, la question familiale des enfants, du cercle rapproché se pose immédiatement quand on évoque cette hypermobilité.
Oui, parce que ce qu'on voit, c'est que dans les enquêtes là, qu'évoquait Vincent Kaufmann, on a vu que les gens qui avaient ce mode de vie hypermobile, ça a quand même des conséquences sur leur vie familiale. Conséquences en particulier dans les cas les plus extrêmes en termes de divorcialité. C'est-à-dire que les gens qui ont ce mode de vie ont un taux de divorcialité qui est deux fois plus élevé que les gens qui n'ont pas ce mode de vie. Ça a des conséquences sur la possibilité de suivre le cours de la vie familiale. Par exemple, on a des témoignages de personnes qui expliquent comment ils sont tellement souvent hors de chez eux qu'ils ont beau faire des efforts quand ils retrouvent la famille le dimanche, le samedi, ils n'arrivent plus à être en phase avec la vie familiale. Ils sont déconnectés. Mmh. Voilà, donc on a ce genre de situation. On a aussi des situations sur le manque de possibilité de s'investir dans la vie sociale, associative, éventuellement politique. Et donc, on voit qu'en réalité, ce mode de vie, même lorsqu'il peut être désiré, et on a rendu des témoignages de personnes qui vivent ça comme quelque chose de finalement de très excitant, d'agréable, de valorisant socialement, ça produit quand même des effets assez lourds sur la vie sociale et familiale. Et ce que je voudrais dire, au risque de casser un peu l'ambiance, c'est qu'on a conduit une enquête en 2015 qui portait sur 6 pays, 3 pays européens, 3 pays industrialisés, et qui montrait que 80% de la population, et donc là on est hors même de la situation des hypermobiles, mais 80% de la population aspire à ralentir. Et près de la moitié aspire à vivre en plus grande proximité. Donc en fait, on est quand même face à une situation d'intensification des rythmes sociaux liés à la mobilité, liés aussi au déploiement des technologies d'information et de communication qui viennent se combiner avec ces possibilités de déplacement rapide, qui créent en fait une sorte quand même de désir de changer de mode de vie, et effectivement aussi parce que ça a un impact fort sur la vie familiale et sociale.
Didier Akwété, avant qu'on vous laisse partir à votre réunion, je me souviens d'une cadre dirigeante qui m'a dit un jour, en fait, quand on est tout le temps dans l'hypermobilité, dans l'avion, dans les hôtels, etc., on finit par ne plus travailler vraiment. Il y a comme un assèchement. Quelle est votre réaction par rapport à ce constat ?
Oh, écoutez, moi peut-être, c'est une perspective de dirigeant d'entreprise, donc forcément avec des objectifs à atteindre, une feuille de route. Nous sommes obligés de nous astreindre en réalité à un certain nombre d'obligations professionnelles. Quand vous allez dans un pays pour rencontrer un client ou une mission, vous êtes obligé de vous préparer avant d'arriver. Quand vous repartez là pour une autre destination, vous êtes obligé. Donc, nous sommes malheureusement, nous, dans un rythme qui nous oblige à tenir un certain nombre d'engagements et de priorités.
Christophe Guay voulait réagir juste à un
moment. Oui, je trouve que ce qui est frappant, c'est que d'un seul coup, là, on voit émerger ce qui est un point vraiment très important, c'est qu'au fond, la liberté liée au déplacement est en train de se transformer en une obligation, en une norme, en une contrainte. Là, je trouve que c'est très, très, très présent, finalement, dans le témoignage de Didier, qui nous a dépeint jusqu'à maintenant un monde, finalement, assez plaisant, assez excitant, mais dont on voit brutalement émerger quand même un discours sur le fait que c'est quand même une obligation, une contrainte.
Sur un continent qui ne connaissait pas cette mobilité-là il y a, on va dire, 20-30 ans, en tout cas, même si là, sur le continent africain, on a toujours beaucoup bougé, mais c'était pas de la même façon, ça concernait pas forcément la même population. Mais est-ce que finalement, sur le continent africain, d'y à côté, vous diriez qu'il y a encore une relation au travail? Je parle bien des cadres dirigeants, des cadres supérieurs. Est-ce qu'il y a encore une relation au travail, finalement, plus, on va dire, plus fraîche, plus émerveillée par rapport à la façon dont les cadres nourrissent leur relation au travail en Europe, par exemple?
Non, je n'ai pas ce sentiment. Nous sommes quand même dans des contextes économiques relativement difficiles, où l'emploi n'est pas non plus la denrée la plus répandue. Donc, vous ne trouvez pas forcément un emploi.
Vous avez quand même des taux de croissance qui peuvent rendre optimiste.
Oui, mais qui malheureusement ne se transforme pas en création d'emplois. C'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on critique souvent sur cette croissance. On dit qu'elle n'est pas inclusive parce qu'elle ne permet pas au secteur privé local d'y participer, et donc de créer des emplois. Donc c'est vraiment une croissance assez contradictoire. Elle est forte, mais elle ne crée pas assez d'emplois. Donc la relation que les cadres ont vis-à-vis du travail, d'abord.
Donc vous avez la même relation au travail finalement qu'ailleurs?
Ah, complètement, complètement. C'est peut-être même pour ça que voyager, c'est aussi une façon de créer des espaces de respiration, des espaces de détente. Donc c'est même plutôt positif, quand on voyage sur le continent, de sortir un peu
À Singapour, ça vous détend de l'Afrique, c'est ça finalement ce que vous nous dites.
Bah oui, Singapour, ou aller à Cape Town, ou aller, à Marrakech pour une conférence. Donc, mais les entreprises le savent aussi. Hein. C'est des espaces de respiration pour les cadres quand on les fait voyager. Mais quand on voyage excessivement, effectivement, ça devient une contrainte. Et c'est vrai, quand on a des obligations professionnelles liées à ces voyages, les voyages ne sont pas forcément un plaisir. Et pour rebondir sur le témoignage de notre précédent intervenant sur la dimension sociale et familiale, je crois qu'il est important de séparer les deux dimensions. La dimension familiale doit être préservée, c'est-à-dire qu'on est chez soi, on est chez soi avec un certain nombre de règles de vie. Quand on est dans la dimension sociale, c'est-à-dire quand on voyage, on rencontre des partenaires, des amis dans les conférences, il y a une dimension sociale qui est une autre.
Nathalie Pechat-Collin, la psychologue du travail, n'est pas d'accord avec vous.
Non, parce que ce n'est pas possible. Je pense qu'on ne peut pas préserver les deux dans la mesure où, quand on est sur une hypermobilité internationale, il y a obligatoirement des manques. La place du parent absent, que ce soit la mère ou le père, ne fera pas partie de la famille sur des événements qui peuvent être importants. Imaginons une famille, j'ai déjà rencontré, avec un petit dernier qui naît, qui commence à marcher. Le père n'est pas là pour voir les premiers pas. Et à partir de là, c'est un exemple. Hein. Il y en a d'autres.
Il y a beaucoup de familles dans l'histoire de l'humanité qui se sont construites comme ça. Ça a même été la majorité des cas.
Bien sûr, bien sûr. Mais on ne peut pas dire qu'on peut préserver, parce que la majorité aujourd'hui des personnes qui sont absentes, on est obligé de redéfinir les places où une mère va faire le rôle de père-mère ou inversement, quand il y a vraiment beaucoup d'absence.
Merci en tout cas. Didier Acoueté, juste un dernier mot avant qu'on vous lâche. Le bilan carbone, c'est quelque chose... vous y pensez de temps en temps ou pas, pour vous, cadre hypermobile?
Oui, c'est pour ça que je fais beaucoup de social. J'ai beaucoup d'engagement social pour compenser mon bilan carbone. Il faudrait que tout le monde fasse un peu pareil pour se donner peut-être bonne conscience, même si on pollue quand même beaucoup avec tous ces voyages.
Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Je n'irai pas d'autres chameaux.
Oui, ça va ralentir, peut-être aussi avec le coronavirus. Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous, Didier Acoueté. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, qui participe à notre émission régulièrement, souhaite intervenir. Elle vient de nous appeler en direct. Elle a entendu le sujet. Vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes créatrice, rédactrice en chef du magazine Brune, un magazine de mode sur le continent africain, entre autres, Marie-Jeanne. Et vous souhaitez intervenir. Vous êtes souvent dans l'avion. Vous avez quelques secondes, Marie-Jeanne.
Oui, quelques secondes pour dire que ce que vit une femme qui voyage énormément n'est pas du tout la même chose que ce que vit un homme, à tous les niveaux. Quand on arrive dans un hôtel, par exemple, puisque c'est mon cas, hein, j'arrive d'Abidjan, on est toujours, si vous voulez, un petit peu en retrait, on est toujours sur ses gardes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les hôtels, et on est toujours ausculté, observé. Deuxièmement, en tant que mère de famille, on panique, mais on culpabilise. Moi, ma fille a 22 ans, et je crois que pendant 22 ans, chaque fois que je suis partie, j'ai culpabilisé parce que je n'ai pas fêté son anniversaire, je n'ai pas fêté le mien, je n'ai pas fêté Noël. Il y a énormément de choses que j'ai ratées et que j'ai essayé de compenser. Mais on n'a pas du tout la même attitude qu'un homme. Et ça c'est la réalité. On ne peut pas voyager quand on est une femme, on ne voyage pas du tout quand on est comme un homme. Et de moins en moins, j'ai de plaisir à voyager pour des longues durées. Maintenant, je m'astreins à être absente au maximum 4-5 jours.
Par mois.
Je fais pas le voyage.
Par mois. Hein.
À chaque voyage. C'est-à-dire qu'il m'arrive de faire 3 ou 4 destinations dans le mois. Mais je refuse maintenant de rester, par exemple, de partir pour 24 heures. Je refuse de partir pour plus d'une semaine parce que je trouve que on donne énormément, parce que en revenant je travaille, en partant je travaille, dans l'avion je travaille, donc à un moment je ne me retrouve plus en tant qu'individu. Mon travail est important, il participe à mon épanouissement.
Et on peut perdre le plaisir, en effet. Merci Marie-Jeanne de nous avoir appelés. Christophe Gay et Vincent Kaufmann et Nathalie Pruscia-Collin, peut-être un mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on a entendu. Est-ce que vous pensez que là, l'avenir, on est en train de réinterroger cet aspect très positif de la grande mobilité? Est-ce qu'il va y avoir dans les années à venir, je pense à des militants écologistes à la Greta Thunberg qui veulent... Est-ce que c'est peut-être encore totalement un épiphénomène qui rallie les Nations Unies de la Suède en bateau? Mais est-ce qu'il pourrait y avoir dans les années à venir, avec notamment les épidémies, une tendance à la revalorisation de la relocalisation? Christophe Gay.
Nous, on le voit très clairement dans nos études. Hein. C'est-à-dire qu'on sait ce que j'indiquais tout à l'heure. Il y a une attente d'une moitié de la population de vivre en grande proximité. C'est-à-dire on ne parle plus du tout, là, même d'utiliser des modes de transport comme la voiture ou même le train, mais de vivre à l'échelle des modes actifs. L'autre moitié de la population aspirant à vivre à moins de 30 minutes pour les activités du quotidien. Donc, c'est un phénomène réellement très fort. Et ça, on le constate absolument partout, ce désir de décélération. Il y a un autre point qu'on a très peu évoqué, que je voulais quand même poser, c'est effectivement les enjeux liés à la décarbonation. Là, il faut qu'on réduise notre empreinte carbone dans les 20 ans à venir. Et le rôle de l'avion dans cette empreinte carbone est absolument considérable. Et il est l'apanage d'une petite minorité de gens. Donc, au fond, on voit qu'à la fois pour des raisons d'aspiration sociale, d'une part, mais aussi d'autre part, pour les raisons liées à la nécessité du changement climatique, il y a un besoin de remettre en cause ces modes de vie basés sur l'hypermobilité.
Ça pourrait remettre en cause aussi, du coup, le privilège, l'aspect très positif, le vernis social de cette grande mobilité, Vincent Kaufmann ?
Oui, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on commence
rêver finalement l'entourage.
Je crois que ça, si vous prenez déjà au niveau des générations, les jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui, ça les fait déjà un peu moins rêver.
Ouais,
et ça, c'est des choses qu'on voit de façon très très forte. Moi, je le vois chez mes étudiants à l'École Polytechnique de Lausanne. Non, moi je pense qu'on est probablement à l'aube d'un changement assez important au niveau de la.
Ouais, enfin, les étudiants, ils font tous maintenant un semestre d'études au minimum à l'étranger et ils s'en plaignent pas en général.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils font des allers-retours en avion tous les trois jours. Donc. Non, mais je crois vraiment que voilà, là on est probablement à l'aube d'un changement important pour des raisons liées au changement climatique, mais aussi peut-être à un épuisement lié à ces grandes mobilités. Ça, c'est quelque chose dont on a peu parlé, mais moi, on l'a beaucoup rencontré dans les recherches qu'on a pu mener. C'est que des gens qui ont pratiqué ça quelques années sont souvent épuisés. Ça peut finir par des burn-out, des ruptures conjugales.
Vous nous en avez bien sûr parlé de cet épuisement, mais finalement, est-ce qu'il y a une recette pour se maintenir à flot ?
Non, c'est très compliqué parce que c'est du cas par cas et la recette, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Mais on est toujours dans des choix de vie, en fait. C'est important que chacun fasse le choix qu'il décide de faire et de voir quelles sont ses priorités. La personne qui est intervenue en dernier, qui disait qu'effectivement la place des femmes était différente dans les voyages, était en train de modifier son choix de vie. Il se rendait compte que tout compte fait, elle n'avait pas vu ou était présente pour pas mal d'événements importants pendant les 22 ans, parce que sa fille a 22 ans, disait-elle. Je pense que voilà, c'est chaque personne est différente et je pense que M. Kaufmann a raison quand il dit que les jeunes aujourd'hui modifient, en fait, ont plutôt envie de rester.
On verra si ça se vérifie. Merci en tout cas à tous les trois. Je termine avec un message de Koami, un Togolais qui est à Bergen en Norvège. Il nous dit, moi je vis en Norvège pour des raisons familiales, la transition est dure, je ne voyage plus depuis 6 mois, je vis mal cette sédentarité finalement. Voilà. Eh bien merci en tout cas à tous les trois et merci à toute l'équipe. Vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement et laisser bien sûr des commentaires. Et demain, 7 milliards de voisins, on parlera des ex-traducteurs afghans employés par l'armée française et aujourd'hui menacés dans leur pays par les talibans. Certains sont toujours en attente de visa pour fuir. À demain.